This is a global existential crisis. And we'll all suffer. We'll all suffer the consequences if we fail.
Salut, Raph.
Salut, Pat.
OK, ça, c'était le président Biden au G7. Et il parle de réorienter là, la politique étrangère des États-Unis vers une collaboration mondiale sur les changements climatiques, par exemple.
Oui, écoute, un G7 virtuel qu'on a eu aujourd'hui, évidemment, à l'ère COVID. D'ailleurs, petit moment, je peux pas m'empêcher de te le mentionner parce que c'est juste trop comique. Là. Au tout début de la journée, Boris Johnson, le PM évidemment britannique, qui demande à Angela Merkel, « Es-tu là, Angela? Faudrait que tu pèses sur le bouton mute.
» comme quoi les grands de ce monde ont les mêmes problèmes de Zoom que nous autres.
T'as tout compris. Il y a des choses qui sont universelles à l'ère COVID. Donc, on a parlé, évidemment, justement, de pandémie, surtout d'envoyer plus de doses de vaccins aux pays en voie de développement. Mais, comme tu le mentionnes, non seulement on a pris cet angle-là là, de multilatéralisme sur la question de la pandémie, mais sur une panoplie de dossiers, incluant l'environnement. Donc, on a martelé du côté américain là, le retour formel aujourd'hui au sein des accords de Paris. On a parlé aussi d'un retour possible à la table de négociation avec l'Iran dans tout le dossier du nucléaire, évidemment, iranien. Où il y a eu un dossier, je te dirais, où la cassure là, avec l'air Trump était peut-être plus nuancée, c'était la Chine. C'est-à-dire qu'on est allé dire qu'on voulait contrer les abus économiques de la Chine, mais on voulait le faire avec le reste du monde. Fait que, tu sais, on reprend un thème, évidemment, central, cher à Trump, puis on lui donne une saveur, si on veut, de coopération internationale. Puis, j'ajoute ceci rapidement, là, un peu plus tôt cette semaine, j'ai eu la chance de participer à un panel dans lequel il y avait un expert de Stanford sur les relations États-Unis-Asie. Ce que lui disait, c'était que ce que il pense qu'il va changer dans les 4 prochaines années avec la Chine, c'est surtout le ton. Souvent qui était carrément xénophobe, là, où il y avait des sous-entendus xénophobes de l'ère Trump, ça va changer. Mais l'effort de contrer la montée de la Chine, ça, non seulement ça va rester selon lui et selon bien des gens, mais ça va peut-être même se renforcer. Fait qu'évidemment, très gros dossier à suivre.
OK. Et là, il y a un retour sur la crise. Tu veux faire un retour sur la crise qui a secoué le Texas toute la semaine?
Oui, je veux en faire un. Je sais que ça fait 3 jours qu'on s'en parle, mais c'est parce qu'il y a une twist, si on veut, je pense, qui n'est pas vraiment appréciée et qui est super fascinante d'un point de vue québécois. C'est-à-dire, je pense que même comme Québécois, on ne réalise pas à quel point Hydro-Québec, évidemment la société d'État, a des visées et a déjà des accomplissements aux États-Unis qui sont remarquables. Tu sais, écoute, je lisais ça cette semaine, juste au Vermont, c'est carrément la majorité de leur électricité pour tous les résidents, les entreprises du Vermont qui viennent d'Hydro-Québec. Okay. Et je m'entretenais plutôt cette semaine avec en fait le chef d'Hydro-Québec des relations gouvernementales. Puis je demandais le genre de crise qui est arrivée au Texas, est-ce que ça peut avoir lieu ailleurs? Est-ce que ça peut se reproduire potentiellement? Est-ce que ça peut donner une ouverture, des ouvertures pour Hydro-Québec? Puis ce qu'il me disait, c'était fascinant. C'était que oui, potentiellement, parce que ce genre de crise-là, c'est peut-être un petit peu l'équivalent de leur crise du verglas. C'est-à-dire que ça va mener à des changements, tout au moins à des réévaluations sérieuses, peut-être des changements dans leur chaîne d'approvisionnement. Et ça pourrait peut-être ouvrir la porte à d'autres joueurs. En même temps, ce qu'il disait, c'est que d'un point de vue québécois, quand tu exportes l'hydroélectricité, bien, il y a une question de distance. C'est-à-dire qu'à chaque kilomètre que tu parcours, que tu fais voyager l'hydroélectricité, oui, bien,
t'en perds. C'est ça. C'est comme le phénomène du transport de l'eau par les conduites d'eau. Là. T'en perds toujours un pourcentage.
C'est exactement ça. Et donc, plus c'est loin, bien, évidemment, moins ça devient rentable. Puis oui. Le Texas, écoute, quand tu pars de Montréal, c'est à peu près 3000 kilomètres. C'est loin. Fait que ce qu'il disait, c'est qu'à l'heure actuelle, le Texas, c'est peut-être justement viser un peu trop loin géographiquement, mais quand même plus loin que le Vermont, plus loin que l'État de New York, jusqu'au Midwest. S'il y avait des États qui, disons, changeaient leur façon de faire ou en tout cas rouvraient la porte davantage, ça pourrait créer une opportunité. Il y avait ça qui était intéressant. Puis juste te conclure là, tout l'épisode texan là-dessus, tu es déjà allé au Texas, si je ne me trompe pas?
Oui.
OK, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était à quel moment de l'année, là?
C'était au début de 2005. Après okay. L'élection du deuxième mandat de Bush.
La réélection de Bush.
Ouais.
Donc, c'était pendant l'hiver.
C'était pendant l'hiver, mais c'était pas froid, là.
Ben, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que je vais te demander. Je veux dire, je pense pas que tu as eu froid quand tu es allé, là. La raison pour laquelle ça a pris tout le monde par surprise au Texas, ce qui a eu lieu cette semaine, c'est que la demande très, très forte en énergie d'habitude au Texas, c'est l'été. Parce que c'est invivable. Quand tu vas à Houston, par exemple, au mois de juillet, au mois d'août, donc la demande de climatisation est extrêmement intense, mais C'est pas le cas pendant l'hiver. Et donc, on profite souvent en fait de cette période-là pour faire de l'entretien. Donc, ça a vraiment déculotté tout le monde. Et en même temps, avec les changements climatiques, c'est aussi le boss des relations gouvernementales me disait ça, disait au Québec, avec les changements climatiques, l'imprévisibilité des intempéries est sans doute appelée en fait à aller en augmentant. Fait que ce qu'on a vu cette semaine, c'est encore une fois peut-être pas la dernière fois qu'on voit quelque chose de la sorte.
OK, et très rapidement, je veux que tu me parles de nouvelles révélations là, qui émergent sur ce que ça voulait, ce que ça signifiait au quotidien de travailler au restaurant présidentiel sous Trump.
Oui, ben, le restaurant présidentiel, c'était à l'hôtel Trump, le Trump Hotel qui était entre la Maison-Blanche puis le Capitole. Puis c'était, écoute, le spot depuis 4 ans de rendez-vous pour le président, sa famille, ses associés, etc. Puis là, il y a un magazine bien en vue de Washington qui a publié ce matin un article, tu sais, qui est à la fois comique, mais en même temps très révélateur sur justement la réalité pour les serveurs, les gérants. Je te compte 3 affaires très, très rapidement. Première anecdote. Il y avait un protocole officiel, crois-le ou non, pour comment demander au président s'il voulait son Coke Diet avec ou sans glace, puis après coup, comment le servir. C'est un processus officiel en 7 étapes. Il fallait s'assurer de prendre l'ouvre-bouteille par le bas de la main et la bouteille aussi par le bas de la main, toujours en présence du président parce qu'il avait peur des germes. Autre petite anecdote, la nourriture du président devait toujours être plus imposante que celle de n'importe qui d'autre. On avait d'ailleurs instauré une...
Comme son assiette devait contenir plus de bouffe que les autres invités?
Il fallait que la bouffe soit plus grosse. Fait qu'il y avait, par exemple, une politique qui avait été mise en place proactivement par le resto de préparer des crevettes grosseur géante pour lui, mais juste pour lui, pour aucun autre client du resto.
Des crevettes de matane pour les autres?
Ouais. Si on veut. Et pour cause, parce que, écoute bien ceci, quand le président est allé manger un steak un peu plus tard avec un de ses amis, un de ses invités, il a demandé au personnel du resto personnellement pourquoi le steak de l'ami en question était plus gros que le sien. Et le petit punch que je te laisse, qui est moins comique, et encore une fois, qui est, je pense, très, très révélateur, c'est une des gérantes du resto qui disait ça. Et là, je la cite. « Je n'ai jamais travaillé dans un endroit où les invités ont essayé aussi souvent de mettre de l'argent dans le creux de ma main pour que j'accepte de les asseoir plus proche de la table de la personne la plus puissante. C'était comme dans les vieux jours de la mafia. » Fin de la citation.
Bonne fin de semaine, Raphaël.
Bye-bye.